Pour que l'argent relie les hommes avec Éric Chauveau et Patrick Sirdé.
Je voudrais tout de suite dire que je préfère le mot apport au mot conférence, et ce d'autant que nous avons prévu de disposer de pas mal de temps pour être à votre écoute et pour entendre vos questions et essayer d'y répondre. D'ailleurs, le mot conférence serait également un peu inadapté parce que je souhaite surtout vous faire part de mon expérience concrète, tout à fait pratique. Je disais tout à l'heure à mon voisin que les choses dont on parle peut-être le mieux, ce sont celles que l'on connaît. Et donc, c'est ça que je vais faire. Il est 2h05. Je pense que vers 3h20, 3h15, j'en aurai terminé avec mes propos. Peut-être un peu plus tôt, je ne sais pas. Ce qui nous laissera donc suffisamment de temps pour essayer de répondre à vos questions. J'ai à ma droite Éric Chauveau, que je salue. Et puis, il y a d'ailleurs dans la salle de grands anciens également de la Nef. Je pense à Philippe Lecomte, qui a été président de l'association pendant 5 ans, de 1999 à 2004, si j'ai bien lu. Voilà, chers amis. Le titre de l'apport est ambitieux, pour que l'argent relie les hommes. En général, c'est l'inverse qui se passe. Regardez ce qui se passe au niveau de la succession de Johnny Hallyday. C'est pas Jojo. La plupart du temps, l'argent sépare les hommes. Mais nous avons essayé consciemment de concevoir des instruments et à travers ces instruments, des relations entre les humains qui soient de nature à les relier. Alors, encore une fois, c'est ambitieux, mais c'est vraiment, je crois, ce que la Nef essaie de faire au quotidien. L'association, la Nef, alors ça va être un peu difficile parce que je vais tantôt parler de l'association, tantôt parler de l'instrument financier qu'est la banque elle-même. Donc, il va falloir essayer de naviguer de l'un à l'autre de temps en temps. Je vais d'abord commencer par l'association, par parler de l'association. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui est à l'origine de tout. L'association existe depuis 40 ans. À cette occasion, donc, un livre vient d'être édité, qui porte le titre d'ailleurs « Pour que l'argent relie les hommes ». Vous pourrez acquérir, si vous le souhaitez, le livre à l'issue de l'exposé. Et je remercie d'ailleurs les éditions Repas d'avoir accepté de publier ce livre. Le livre est également accessible sur le stand des éditions Repas, de même qu'il est accessible sur le stand de la Nef. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est pas l'histoire d'un mec à la Coluche. J'aimerais en fait vous dire comment tout a commencé en 1978, il y a une quarantaine d'années. J'étais personnellement à l'époque membre du conseil d'administration d'une école Waldorf, l'école Perceval à Chatou, qui avait des projets de développement. Et dans la sphère des écoles Waldorf, des instituts médico-pédagogiques, des instituts de formation pédagogique, des fermes en biodynamie, il y avait partout des projets, mais une surface financière insuffisante pour pouvoir les réaliser. Chacun avait des sous, mais ça ne suffisait pas. Et les banques traditionnelles refusaient de financer des entreprises à risque élevé selon elles. Et c'est à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Bidault que, en avril 1978, toutes ces différentes associations, encore une fois, qui étaient toutes reliées par le fait qu'elles avaient besoin d'argent, se sont réunies à Chatou pour rencontrer, entendre, dialoguer, questionner les fondateurs de la première banque éthique, je crois pouvoir dire européenne. Elle a été fondée à la fin des années 60 en Allemagne. Les fondateurs de cette banque avaient accepté de venir à Chatou pour expliquer ce qu'ils faisaient, comment ils considéraient l'argent, comment ils traitaient leurs clients, quels liens ils essayaient d'établir entre entre les apporteurs de fonds et les demandeurs de fonds. C'est une réunion qui a été, elle s'est déroulée sur 3 jours. Elle a été extrêmement riche en enseignements de tous ordres. On a beaucoup approfondi la question des différentes natures de l'argent, l'argent d'achat de tous les jours, l'argent de transaction, pourrait-on dire. L'argent qui est distribué sous forme de crédit, donc l'argent de prêt. On a aussi parlé beaucoup de l'argent de don, tout ça dans la perspective de l'économie, évidemment. Hein. Quels sont les rôles de ces 3 formes de l'argent dans l'économie. Et puis, vers le milieu de la réunion, le principal fondateur allemand de la banque allemande, il s'appelle Barkow. Je le cite parce que ce sont des gens qui vraiment ont marqué de leur empreinte et de leur personnalité le devenir des choses. Barkow nous a, à nous qui étions là, nous a proposé de faire un exercice. Il nous a dit, si j'ai bien compris, vous avez tous des projets, alors vous allez les raconter. Donc chacun, à tour de rôle, vous allez nous dire en quoi consiste votre projet, et puis, accessoirement, qu'est-ce qui vous manque comme argent. Et ainsi fut fait, alors on était quand même 8 ou 10, hein, donc ça prend du temps, on a pris pas mal du temps à ce que chacun expose son projet. Alors parmi les projets, il y avait création d'un réfectoire, d'une cantine à l'école Perceval, une grande salle au domaine de Lormois, à Saint-Laurent-du-Cher, pour les conférences sur la biodynamie. Enfin, j'en passe, je vais pas tout vous citer. Et à l'issue de cette présentation de chacun des projets, présentation succincte néanmoins, Barkow nous a dit, bon, maintenant, on va se concentrer sur un projet. Vous allez oublier que vous êtes à la tête d'une association qui a des besoins, qui est elle-même porteuse de projets. On va se concentrer sur un projet. Et il a choisi comme projet la création, l'édification, le financement, pardon, de la construction d'une grande salle au domaine de Lormois, à Saint-Laurent-du-Cher. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les débuts de la biodynamie en France, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, fin des années 70, il y avait, je dirais, deux endroits en France où on pouvait, entre guillemets, s'initier à la biodynamie, sous l'angle à la fois théorique et pratique. C'était en Alsace, à Colmar, d'une part, et puis surtout à Saint-Laurent-du-Cher, chez Michel Monziès, qui donnait des cours très régulièrement chaque année avec des congrès annuels sur la biodynamie. Et donc, il n'avait plus de place pour recevoir des personnes intéressées par ce qu'il faisait, et il avait besoin de créer une salle. Et donc, on l'a écouté, bien présenté son projet, et puis, progressivement, ce faisant, chacun d'entre nous c'est un peu détaché de l'égoïsme institutionnel. Vous savez, quand on est à la tête d'une institution, on regarde d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même, on regarde d'abord à ce que les intérêts de sa propre institution soient sauvegardés avant de se concentrer sur les autres. Non, là, nous avons fait le choix tout à fait inverse, à savoir le choix de nous concentrer sur le projet de quelqu'un d'autre. Donc, Claude Mongiès expose son projet, et Barkow, à l'issue de cet exposé, demande à chacun ce qu'il pourrait, comment il pourrait contribuer au financement de ce projet. Parce que le fait est qu'aucune des institutions présentes ne disposait de suffisamment d'argent pour financer intégralement son propre projet, mais chacun avait un peu d'argent malgré tout. Et donc, en faisant un deuxième tour de table, il est apparu rapidement que la somme nécessaire à un prêt à Claude Mongiès pouvait être réunie sans problème et sans difficulté, ce qui d'ailleurs fut fait quelques, quelques semaines après, un prêt a été réalisé à l'attention de Claude Monziez. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que moi, c'est une expérience qui m'a énormément marqué. Et en fait, si j'essaye de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette réunion, en quoi l'expérience elle-même a consisté, je dirais que je vois d'abord une première phase, hein, une phase 1 dans le processus, que je décrirais de la manière suivante. Je laisse de côté mes propres préoccupations, j'écoute, je me mets vraiment à l'écoute, et je me concentre sur les besoins de l'autre. Donc vraiment l'effort de s'oublier un peu soi-même et de vraiment de se concentrer sur les besoins de l'autre. La deuxième phase, c'est l'exposé des besoins de l'autre suscite mon intérêt et déclenche, met en mouvement la volonté d'aider, donc cette volonté d'aider se met en marche. Et la troisième phase, c'est celle qui veut que, grâce aux contributions des uns et des autres, le projet va pouvoir se réaliser. J'ai le sentiment, à titre personnel, d'avoir fait œuvre utile et j'en ressens de la satisfaction. Donc, ce jour-là, de quoi avons-nous pris conscience ce jour-là ? Nous avons pris conscience ce jour-là, en tout cas en ce qui me concerne, que l'altruisme est une forme extrêmement importante, c'est une force extrêmement agissante dans le domaine de l'économie. On l'ignore bien souvent, on le sous-évalue bien souvent. Pourtant, l'altruisme est dans notre monde aujourd'hui déjà présent dans le monde économique, bien insuffisamment, évidemment. Mais si je peux vous donner, il y a un tas d'exemples d'altruisme qu'on peut soulever ou qu'on peut donner. Peut-être un des plus connus, c'est celui de Mohamed Younous avec la Grameen Bank. La banque des villages, hein. Grameen Bank, ça veut dire banque des villages. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience en question. Ça se passe au Bangladesh, un des pays, sinon le pays le plus pauvre au monde. Et Mohamed Younous, avec 27 dollars en poche, a réussi à mettre en route un mouvement de microcrédit qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Au point où, à l'heure où nous parlons, les encours de microcrédit de la Grameen Bank atteignent 4,7 milliards de dollars. C'est considérable. C'est évidemment, par rapport à d'autres volumes qui circulent en économie, ça peut paraître très peu, mais c'est considérable et ça a considérablement changé, d'ailleurs, la vie des paysans. Il était intéressant, je le fais remarquer en passant, de voir que les prêts étaient toujours accordés à des groupes de personnes, jamais une personne seule, des groupes de 5 personnes au moins, et les prêts étaient faits à des femmes et pas à des hommes. Voilà, bon, on pourrait réfléchir sur cette question. Voilà, cette découverte de l'altruisme, comme je le disais, comme force agissante dans l'économie, ou susceptible d'être agissante dans l'économie, ça a été pour nous extrêmement important. Et si vous permettez, je vais faire une petite parenthèse de la manière suivante. Enfin, altruisme et fraternité, c'est similaire, c'est voisin comme concept. Quand on regarde, quand on se penche sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, quand on entend nos hommes politiques en parler, ou même, enfin, sans parler d'hommes politiques, les uns et les autres, nous-mêmes ici, en parler, je crois que on trouve facilement à définir la liberté. On sait facilement dire à quoi s'applique la liberté. La liberté de penser, la liberté de créer, la liberté d'aller et venir. Enfin, cette notion de liberté, elle est définie d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on la cerne bien. Le concept est assez clair dans ses conséquences sociales. Si je prends maintenant l'égalité, c'est pareil. L'égalité, on voit tout de suite, l'égalité, le concept d'égalité est également défini. dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'égalité, l'égalité, c'est quoi? C'est le fait que nous naissons égaux en droit. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, la même quantité, la même nature de droit. Quand nous votons, qui que nous soyons, prix Nobel ou personne très simple, eh bien, la voix pèse le même poids. La loi s'applique à tout le monde de manière égale. Donc, la notion d'égalité, on la maîtrise assez bien également. En revanche, la notion de fraternité, quand on écoute les politiques, en particulier, parler de fraternité, moi, je suis toujours saisi par le... C'est presque un embarras. On ne sait pas très bien définir la fraternité, si ce n'est en assimilant la fraternité à la charité. Alors, loin de moi de critiquer la charité, bien évidemment, il y a des... Quand on parle de fraternité, on vous donne souvent des exemples du genre l'abbé Pierre, du genre les Restos du Cœur. Et c'est très bien, évidemment, mais quelque part, l'impression que cela donne, c'est que la fraternité, la notion de fraternité, le concept de fraternité n'a pas encore vraiment trouvé sa vraie place dans la vie sociale des humains, en tout cas, certainement pas au même titre que la liberté et que l'égalité. Et à bien y réfléchir, et bien évidemment nous sommes nombreux à le dire, à bien y réfléchir, le domaine, la sphère sociale à laquelle doit s'appliquer l'altruisme ou la fraternité, c'est le domaine économique. Chaque sphère, la sphère du droit, est organisée sous le principe directeur de l'égalité, la sphère culturelle est organisée sur le principe directeur de la liberté, et le monde économique, la vie économique, devrait être organisée sur le principe directeur de la fraternité. Alors, je n'ignore pas en disant cela que nous en sommes loin. C'est une question de masse critique. Bien que nous soyons bien plus nombreux qu'il y a 40 ans, à être conscient du fait que c'est seulement de cette manière-là qu'à la limite on pourra mettre fin à la charité. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on résoudra le problème dans son essence, ou les problèmes dans leur essence, et qu'on ne se limitera pas à guérir les conséquences. C'est seulement à partir du moment où on organisera concrètement la vie économique en la plaçant sous l'égide de la fraternité ou de l'altruisme, qu'on trouvera une meilleure manière de vivre ensemble. J'en reviens donc à la nef et à ce moment de 1978. Nous avons rapidement décidé de ne pas en rester à cet exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous avons donc décidé de créer une association qui aurait pour but, précisément, de mettre en relation des personnes qui souhaitent donner un sens à leur argent, souhaitent que les quelques économies dont ils disposent puissent être utilisées à bon escient, et des institutions, il s'agissait à l'époque uniquement d'institutions, d'associations, qui étaient elles-mêmes à la recherche d'argent. La NEF n'était pas une banque, mais l'association, la NEF que nous avons créée, n'était pas une banque, mais à certains égards, elle faisait office ou fonction de banque, ce qui nous amenait d'ailleurs à tutoyer la bande jaune de la légalité. On était vraiment, dans la mesure où on avait une activité quasi-bancaire, on était aux extrêmes limites de la légalité. Et l'association La Nef s'est développée en trois étapes. La première étape, c'est que nous l'avons ouverte à des particuliers. Jusque-là, seules des associations pouvaient devenir membres de La Nef. Donc, à un moment donné, nous avons considéré que nous ne pouvions pas seulement nous limiter au monde associatif, mais que tous les particuliers devaient pouvoir avoir accès à La Nef. Le deuxième point, ça a été le fait de gommer dans nos statuts toute référence à une orientation philosophique particulière. La nef, elle est là pour tout le monde, pour toute orientation. Elle est là pour les croyants, pour les incroyants. Elle est là pour les riches, elle est là pour les pauvres. Rien ne doit empêcher quiconque au titre de ses convictions d'être membre de la nef. Donc on a totalement gommé les références philosophiques que nous avions au départ. Puis le troisième point, ça a été en 2004 quelque chose que nous avons vécu au départ comme une tuile, vraiment comme un grand handicap. C'est la loi bancaire de 2004 qui, de manière tout à fait précise et expressis verbis, a interdit aux... 84. Ah, je sais pas ce que j'ai dit, quoi, 2004? Oui. Ah oui, non, excusez-moi. 1984, qui a interdit aux associations en général de se faire crédit entre elles. Et donc nous nous sommes trouvés à ce moment-là face à un problème majeur. Donc au début on a trouvé ça absolument catastrophique. Et puis après on s'est dit mais bon sang, c'est aussi peut-être un appel à faire quelque chose. Et nous avons regardé qu'est-ce que nous pouvions faire en tant qu'association, quel instrument financier nous pouvions en tant qu'association créer qui nous permettent de poursuivre notre activité. Et il y avait en fait le choix entre deux possibilités. La première possibilité, c'était une banque de plein exercice, mais là, c'était, je dirais, tout à fait au-delà de notre portée, à la fois financièrement, mais également en termes de compétences, parce que mener une banque, ça ne s'invente pas, c'est un métier. Et il y avait l'autre possibilité, c'était la société financière. Et nous avons donc choisi d'essayer, puisque en 84 nous ne savions pas si nous y arriverions, nous avons décidé d'essayer de fonder une société financière. Et c'est le moment d'ailleurs où, depuis la nef, deux personnages, donc j'ai cité Jean-Pierre Bidault tout à l'heure, mais je voudrais maintenant évoquer la personne d'Henri Nouérit, ont commencé à sillonner la France pour plaider en faveur de la constitution du capital de la société financière. Il fallait qu'on rassemble 15 millions de francs à l'époque, enfin les francs de l'époque, ce qui était pour l'époque assez considérable. Et Henri Nouérit et Jean-Pierre Bidault, comme je le disais, ont sillonné la France et ont suscité beaucoup d'enthousiasme par les conférences qu'ils ont faites. Je crois me souvenir qu'ils étaient venus, Philippe, ils étaient venus à l'école de Verrières-le-Buisson, et c'est comme ça que toi, tu as trouvé le lien avec la nef. Donc, ce n'était pas un paradoxe, c'était toujours très impressionnant de voir à quel point, quand on se mettait à parler de la nef, ça parlait à l'âme des gens. Hein. Tout d'un coup, les gens se sentaient interpellés, intéressés, se disaient, oui, ça a un sens, il faut qu'on s'en préoccupe. Et le miracle s'est produit. Au terme des 4 années que nous nous étions données pour constituer le capital, en 2008, nous en avions constitué l'essentiel. Il manquait encore un gros morceau, mais qui a pu être rattrapé par après. En 2008, il a été possible donc de créer la société financière. Alors, 88, excusez-moi. Alors maintenant, ça devient un petit peu difficile parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de l'association La Nef et vous allez voir que maintenant, je vais vous parler également, je vais devoir vous parler de, moi j'appelle ça Nef Bank dans mon jargon, je vais devoir vous parler de la société financière. La société financière, je dois rajouter une chose, la société financière est une coopérative, c'est-à-dire que pour nous, la notion de coopérative était extrêmement importante. Vous savez qu'un des aspects de la notion de coopérative, c'est quoi ? C'est le fait que, quel que soit le montant des parts que l'on détienne dans une société coopérative, dans notre cas, c'est à capital variable, quel que soit le nombre de parts que l'on détienne, on n'a qu'une voix. Nous avions de très gros apporteurs de fonds. Ils avaient une voix en Assemblée Générale comme la personne qui n'avait qu'une seule part. Et il faut ici mentionner l'aide qui a été celle du crédit coopératif. auquel nous avons pu nous adosser. Vous savez qu'un un établissement bancaire ne peut se créer sauf... Alors après, il peut évoluer vers une autonomie, mais au départ, a besoin de pouvoir s'adosser à un établissement bancaire qui garantit que les fonds déposés au sein de l'établissement en question pourront être remboursés si tout d'un coup les gens veulent le remboursement de ces fonds. Donc nous avons cheminé pendant deux bonnes années à partir de 86 avec le crédit coopératif. Et je dois dire ici que la cohabitation ou les relations avec le crédit coopératif à ce moment-là ont été extrêmement fructueuses. Elles sont devenues un peu plus difficiles par après, mais restons positifs, elles ont été très fructueuses. Et pour dire les choses comme elles sont, la nef ne serait pas née sans l'aide du crédit coopératif. C'est simplement une réalité qu'on ne peut pas omettre. Et le crédit coopératif est entré également pour une somme importante dans le capital de la société financière. Alors j'aimerais maintenant vous dire quelques mots d'une ou deux valeurs fondatrices de la nef en tant que banque. Et je voudrais commencer par ce qui est peut-être le plus important, je ne sais pas, à vous de juger, à savoir la notion de circulation transparente de l'argent. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche au système bancaire traditionnel ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche finalement d'organiser d'une manière assez méthodique une absence de relation, une absence de visibilité entre les déposants, ceux qui déposent leur argent, sous quelque forme que ce soit, et ceux qui empruntent. Alors ça porte un nom, ça s'appelle le secret bancaire. Et donc, au gré du secret bancaire, on organise de manière méthodique, encore une fois, cette séparation entre les deux, ce qui permet finalement à ces banques, à nos grandes banques, qui font 98-99% des transactions bancaires dans ce pays, de financer des activités qu'à titre individuel, nous ne souhaiterions pas forcément voir financer. Qu'il s'agisse de l'armement, qu'il s'agisse du nucléaire, qu'il s'agisse de la chimie, des entreprises qui sont engagées dans la chimie, qu'il s'agisse des énergies fossiles. Voilà, on peut avoir une conscience telle qu'on souhaite que l'argent que l'on dépose dans une banque ou dans un institut financier soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire selon des critères d'attribution qui nous conviennent et qui ne perpétuent pas un système que nous jugeons comme problématique. Et ça a été vraiment la grande novation de la nef. Je dirais la nef est la nef banque, donc est le seul instrument financier en France, même le crédit coopératif ne le fait pas, est le seul instrument financier en France qui pratique une transparence absolument totale. Et j'ai ici, vous pourrez si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder après, j'ai ici, pour l'année 2016, la liste intégrale des prêts et des concours qui ont été attribués par la nef à des institutions, à des particuliers, et les domaines dans lesquels cet argent est allé. Donc, organiser une circulation transparente de l'argent, ça c'est une valeur fondamentale extrêmement, elle est cardinale de mon point de vue. Alors une autre valeur fondatrice, elle est en corrélation, si je puis dire, avec ce que nous venons d'évoquer, c'est la notion d'utilité sociale. La nef prête à des particuliers ou à des institutions qui ont un projet qui, de près ou de loin, mais plutôt de près que de loin, a un rapport avec l'économie sociale et solidaire, a un rapport avec le développement économique durable, avec la transition énergétique par exemple, maintenant. Voilà, il y a d'autres valeurs fondatrices, mais je ne voudrais pas être trop long. En ce qui concerne les moyens d'action de la nef, les moyens d'action, comment peut-on finalement contribuer à l'activité de la nef? Il y a la notion de capital. La nef a un capital social qui est aujourd'hui de l'ordre de 40 millions d'euros, pas tout à fait, avec 40 000 sociétaires, 40 000 coopérateurs. Et ce capital, il est extrêmement important parce qu'il a deux fonctions. Premièrement, il permet, pour une partie, d'être prêté aux porteurs de projets. En second lieu, il assure la liquidité de l'établissement. Si vous avez fait un dépôt à la nef et que vous veuillez le récupérer, il est indispensable que la banque dispose de la liquidité permettant de rembourser ce dépôt. Donc, la notion de capital qui était importante au départ pour créer l'établissement l'est de plus en plus ou tout autant qu'auparavant, parce que au fur et à mesure que la nef développe son activité et au fur et à mesure que l'encours de crédit accordé par la nef augmente, eh bien il faut que la liquidité de l'ensemble de l'établissement soit maintenue, soit préservée, et ça ne peut se faire qu'à travers le capital social de l'établissement. Et puis, si vous voulez bien, je crois que l'heure tourne, je voudrais terminer par quelque chose que l'on met également rarement en relation avec une banque, à savoir la notion de don. La nef est également un instrument pour pratiquer le don, et on peut le faire de différentes manières. On peut le faire, par exemple, en décidant que les parts sociales que l'on a acquises ne porteront pas de dividendes, exactement que les dividendes, quand il y en a, des parts sociales, ces dividendes seront donnés et attribués à tel ou tel partenaire de la nef, par exemple au fonds Germe Économie Fraternelle, dont Eric va certainement pouvoir parler dans quelques instants, c'est-à-dire à des institutions qui ont pour but de distribuer de l'argent de dons. Pourquoi faut-il distribuer de l'argent de don dans l'économie? Nous avons beaucoup travaillé au sein de la nef ces dernières années la notion d'importance du don dans l'économie. Tout simplement parce qu'il y a toute une sphère de la vie sociale, à savoir la vie culturelle, qui certes produit des choses, mais en termes financiers, de manière insuffisante pour couvrir les besoins. La vie culturelle a besoin de dons. Et à travers cet abandon de dividendes, voire d'abandon d'intérêt, puisqu'il est possible également, quand on a un compte sur livret à la nef, il est possible de dire, eh bien, je ne tiens pas à avoir les intérêts, ou je renonce à la moitié des intérêts, sachant que l'autre moitié ira abonder, par exemple, le fonds Germe. C'est une manière de participer. C'est une manière de participer au financement d'activités qui, sans le don, ne peuvent subsister. Et ça permet également, parce qu'il y a une partie des dons qui sont affectés à l'étude de projets. Étudier un projet quand on est à la nef, c'est prendre du temps, consacrer du temps. Et ce, pour des montants qui sont parfois faibles. 5 000, 10 000, 15 000, enfin faible, tout est relatif bien sûr, mais 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et vous imaginez le temps qu'il faut pour instruire correctement un projet de ce montant, si on veut vraiment le faire en étant à l'écoute du besoin d'autrui, eh bien cela prend un temps considérable, cela a un coût, et l'argent de don ainsi dégagé permet également de financer cet aspect de l'activité de la nef. Je termine par l'association. Alors là, j'ai parlé donc de la banque. Je termine donc ce propos par l'association. L'association a donc donné naissance à la Société financière, non pas en 2008, mais en 98. Non, décidément, en 88, en 1988. Et on s'est demandé, à différents stades d'existence de l'association, on s'est posé la question de savoir s'il fallait poursuivre l'activité de l'association. Nous avons toujours trouvé de bonnes raisons pour la poursuivre. La dernière en date, et ça sera en quelque sorte l'introduction au propos qu'Éric va tenir, la dernière en date, c'est la création par l'association ou au sein de l'association d'un fonds de dotation qui a 4 ans maintenant, le fonds de dotation Germe d'économie fraternelle, dont je laisse Éric parler. Voilà. Merci beaucoup. Désolé si je me suis laissé emporter un peu par mon élocution parfois. Il est donc moins 20. Nous avons 40 minutes encore, un peu plus même, pour les questions et les réponses. Et je serais très heureux que des questions puissent jaillir de l'Assemblée. Mais pour l'instant, je cède d'abord la parole à Éric. Merci.
Merci Patrick. Donc, comme l'association La Nef, qui fête ses 40 ans cette année, a donc créé d'abord la société financière, 10 ans après, et puis en se préoccupant du coup de l'argent de prêt. Et nous avons beaucoup réfléchi à un moment donné. Nous avons beaucoup réfléchi à un moment donné à la création d'une fondation. Et puis c'est vite avéré que c'était un coût beaucoup trop important. Et à cette époque-là, s'est créé donc ce qu'on appelle les fonds de dotation, hein, qui venaient des États-Unis et qui ont permis, parce que financièrement, il n'y avait pas d'argent à mettre directement, et puis c'était une gestion beaucoup plus facile qu'une fondation, donc de créer un fonds de dotation. Et le fonds de dotation créé par l'association, donc l'a été fin 2013, et donc c'est un outil, hein, c'est un outil financier, donc qui permet à la fois de collecter du don et en même temps de pouvoir soutenir des projets avec les dons qui sont collectés, donc des dons qui sont collectés de particuliers ou qui sont collectés auprès d'entreprises dans le cadre du mécénat, ou bien encore des dons libres que font un certain nombre de particuliers, d'individus. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est d'essayer aussi, dans le cadre de rester, je dirais, dans le cadre de la Nef. Et la Nef, effectivement, son lien premier, comme l'a expliqué Patrick, c'est réellement d'être beaucoup plus en lien direct avec l'argent ou avec le fait que l'argent traverse l'économie. Et ce qui était important pour nous à ce moment-là, c'est de recréer et de réexpliquer, donc Patrick l'a fait un petit peu tout à l'heure, mais de réexpliquer que le don dans l'économie, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de gros, gros bénéfices et qui, en définitive, la remettent dans l'économie. Ce qui fait que ça ne crée rien de nouveau. Ça veut dire que ça fait la plupart du temps que la continuation de ce qui se passe. Alors que dans l'esprit du fonds Germe d'économie fraternelle, il y a bien le mot « germe ». Et pour nous, il est important que le don soit en capacité de générer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de pouvoir apporter sa pierre à un germe pour qu'il puisse, dans les années qui vont suivre, pouvoir porter ses fruits. Hein, s'il s'agit d'un arbre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des fruits. On ne se pose pas la question de savoir si l'arbre est beau ou pas beau. L'intérêt, c'est ce qu'il produit. Et du coup, germe d'économie fraternelle, on soutient des projets qui sont effectivement des projets en germe, c'est-à-dire on essaye le plus possible de soutenir des projets nouveaux, parce qu'on a énormément de demandes, mais surtout de grosses associations ou de grosses associations, ou même de plus petites qu'on a déjà aidées dans les années précédentes. Pourquoi ? Parce que vous savez que là où on est actuellement dans cette France économique, donc il y a de moins en moins de subventions. Et donc il y a eu aussi beaucoup d'emplois qui ont été supprimés, qui étaient des emplois précaires, on va dire, et que du coup il y a plein d'associations qui se retrouvent sans avoir de financement aujourd'hui. Or, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de financer ce qu'il a déjà été, mais ce qui nous intéresse, c'est de financer quelque chose qui vient, qu'on pressent, qui est là. Et c'est vrai que ce que nous souhaitons le plus, c'est que dans cette économie d'aujourd'hui, on puisse créer de nouveaux modèles. Donc, dans les demandes qui nous sont faites, on essaye la plupart du temps aujourd'hui. Donc, on est un groupe actuellement de 7 personnes. Et donc, avec l'association La Nef, hein, le fonds Germe a sa propre structure juridique en tant que fonds de dotation, mais nous fonctionnons toujours avec l'association, donc, où on détermine quel projet on va soutenir. Et là, effectivement, on s'est posé depuis plusieurs années un certain nombre de questionnements sur quels sont les critères que nous allons mettre en place. Et en fait, les critères que nous souhaitons mettre en place aujourd'hui, c'est un petit peu, comme le disait aussi Patrick, sur le culturel. Pourquoi le culturel ? Parce que le culturel, en termes économiques, ne produit rien. Et pourtant, hein, quand vous allez voir une pièce de théâtre, quand vous allez écouter un concert, etc., ce sont des gens qui sont passionnés, qui se donnent, etc., mais qui, pour la plupart du temps, n'ont pas de moyens de financement. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, de pouvoir financer ce qui, pour moi, devrait être financé, en fait, par l'État, hein, dans le sens où ça nous apporte à tous cette vie culturelle dont on a besoin pour s'épanouir. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, le fonds Germe est un outil financier dont les objectifs sont ceux-là, c'est-à-dire aider à soutenir des écoles différentes, et il y en a de plus en plus, hein, aider à soutenir des associations qui sont, je dirais pas en marginalité, mais qui sont en train de créer quelque chose de nouveau, qui sont en train de produire aussi de nouvelles structures, qui sont en train de produire quelque chose qui est ce que nos enfants commencent déjà à vivre et qui sera demain. Il y a eu ce film Demain qui pour moi est beaucoup le film d'aujourd'hui parce que beaucoup de choses étaient déjà faites, mais du coup il y a à regarder encore l'espace d'après. Le fonds Germe souhaite donc, avec les financements qu'il reçoit, pouvoir prêter, parce qu'on fait des prêts d'honneur, ou donner donc à des associations, à des groupements, voilà, ce qui est en lien avec la recherche aussi sur l'argent. Et en même temps, je disais sur les écoles alternatives, mais aussi, on est toujours très, très proche de tout ce qui se fait au niveau de la bio et de la biodynamie, comme au départ. Voilà, je vous remercie.
Bien. Alors, je crois que au niveau des apports que nous souhaitions faire, nous avons terminé. Et si vous avez des questions, avec très grand plaisir... Je crois que c'est vous qui faites l'animation des questions.
Oui, c'est ça. Donc merci Éric Chauveau et Patrick Sirdet. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou une envie de discuter ?
Bonjour. Vous me dites si, parce qu'en raison de ma paralysie, peut-être qu'on ne m'entend pas très bien, je ne sais pas. J'ai trois types de questions en fait. La première. Il me semble, je me suis intéressée il y a quelques années, en fait, pour placer de l'argent à la Nef. Et à ce moment-là, je crois que c'était une période où il était question que la Nef devienne carrément un établissement bancaire. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un compte courant, en fait. Et finalement, donc, il fallait une accréditation au niveau européen, hein, je ne me souviens plus. Donc apparemment, la Nef n'a pas eu cette accréditation, cet agrément. Et donc, j'aimerais en connaître la raison.
On va peut-être commencer par cette question, si vous
voulez
bien.
D'accord.
Il y a eu, pendant toute la première décennie du nouveau millénaire, il y a eu des tentatives d'association avec des banques éthiques étrangères, Banca Etica en Italie, par exemple, et d'autres. En vue effectivement de pouvoir disposer d'un établissement bancaire au sens classique du terme, c'est-à-dire un établissement où, en tant que particulier, on puisse avoir un compte de dépôt, où on puisse avoir une carte bleue et où les transactions de la vie quotidienne puissent s'effectuer. Ce projet a échoué. Il y a eu au dernier moment un revirement de Banca Etica. Je crois que ça nous entraînerait trop loin que d'essayer de comprendre pourquoi. En revanche, nous n'avons pas pour autant, enfin, Nef Bank, la société financière, n'a pas pour autant oublié le but qu'elle s'était donné dès l'origine, à savoir de devenir une banque de plein exercice. Et là encore, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle a été aidée par une évolution de la réglementation. Parce que Nef Bank est une société financière. Or, dans le paysage bancaire français, sur un plan juridique, il n'y a plus de société financière. Donc, la question nous était posée de savoir, mais qu'est-ce qu'on allait devenir ? Et il y a eu une date assez importante au cours des dernières années, à savoir 2014, l'Assemblée générale des coopérateurs, des sociétaires donc de la société financière à Nantes, Assemblée générale au cours de laquelle et à l'issue de laquelle il a été décidé d'aller vers une banque de plein exercice. Et la direction de la Nef a commencé à prendre toutes les mesures pour aller dans ce sens, principalement en finançant l'élaboration et la mise en place d'un nouveau système informatique. Vous savez que dans une banque, enfin dans toute entreprise, mais encore plus dans une banque, le système informatique qui est à mettre en place est extrêmement lourd si on veut que toutes les sécurités soient disponibles et présentes. Ça, c'est un coût extrêmement important, mais nous avons été rattrapés. Je dis tout de suite que ça ne remet pas en cause le projet, mais ça va le retarder dans le temps. Nous avons été, si je puis dire, cueillis à froid par la chute massive des taux d'intérêt et par le fait que les ressources de la Nef ont beaucoup diminué du fait de cette chute des intérêts. Et alors que nous étions largement bénéficiaires jusqu'à il y a 2013-2014 encore, avec une constitution de réserve d'ailleurs progressivement au fil des années, eh bien il se trouve qu'à partir de 2015-2016, on a commencé à sentir que les choses devenaient difficiles, et donc nous avons dû différer, étaler dans le temps, reculer dans le temps, la création d'une banque de plein exercice. Mais je vous le redis très, très simplement, le projet n'est absolument pas abandonné. Il mettra simplement plus de temps à voir le jour.
Alors, la deuxième question, c'est les porteurs de projets, outre le domaine, sans rentrer non plus trop dans les détails, mais quels sont les critères, enfin, comment vous sélectionnez, entre guillemets, vous les choisissez, parce que vous êtes obligé d'en laisser, enfin, pas tout le monde, il y a des critères de sélection, entre guillemets, et qui, il y a une commission spécifique suivant les domaines d'activité qui permet de valider les potentialités
Alors,
du porteur de projet, enfin, de la porteur oui. de projet, des porteurs
bon,
de projet.
J'ai parlé tout à l'heure de la notion d'utilité sociale.
Oui.
Ça prend des formes extrêmement variées et diverses, bien évidemment, mais le critère de l'utilité sociale, au sens où je l'ai évoqué tout à l'heure, est extrêmement important. Ensuite, un projet, il fait l'objet d'une étude, je dirais, classique, dans la mesure où on vérifie les chiffres, on regarde si le compte d'exploitation... Mais on fait ça avec les intéressés. On regarde si le compte d'exploitation tient la route. Et surtout, et ça c'était également un élément extrêmement important, on s'assure de l'environnement social de la personne qui emprunte. Ça aussi, c'est une dimension importante. C'est finalement, la personne qui nous vient là, est-ce qu'elle est seule à avoir une idée de développement, peut-être un produit nouveau, ou bien est-ce que cette personne-là nous vient entourée, en quelque sorte, d'un réseau social, d'un certain nombre de personnes qui s'intéressent au projet en question. Ça, c'est un critère important. Et d'ailleurs, dans les critères du fonds germe d'économie fraternelle, c'est parmi toutes les questions qui sont posées, il y a celle-là. C'est en quoi votre projet, finalement, est-il intéressant socialement, indépendamment du fait qu'il vous plaît et qu'il est intéressant pour vous. Voilà.
C'est ce qu'on appelait à l'époque les cercles C'est ce qu'on appelait à une époque les cercles de caution solidaire. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'un entrepreneur, quel qu'il soit, tout seul, c'était quand même assez difficile et qu'il était nécessaire, et ça on le vérifiait, qu'autour de lui, il y ait tout un tas de personnes qui soient en capacité donc de le soutenir le jour où il avait un petit peu de morale en moins ou le jour où les comptes n'étaient pas très bons, et cela sur 2, 3, 4 ans. Et donc, on créait des cercles de caution qui étaient aussi une caution financière à la fois. Mais ce qui nous intéressait surtout, c'est comme disait Patrick, l'environnement, hein, l'environnement social du projet, et qu'il y ait pas mal de personnes qui soient intéressées.
Vous aviez une troisième question.
Ma dernière question, elle va être très courte. C'est, vous avez fait une toute petite allusion sur le fait qu'à un moment, les relations étaient bonnes entre la nef et le Crédit Populaire. Moi, j'ai des expériences très décevantes, effectivement, au sein du Crédit Coopératif, pardon, et j'ai mis ça sur le compte du fait que, justement, le Crédit Coopératif était quand même obligé, in fine, d'obéir à ses maisons mères, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, Banque Populaire et BPCE. Justement, je voudrais savoir aujourd'hui quel est l'état de vos relations, juste pour savoir si vraiment il y a une différence de fond entre le Crédit Coopératif, enfin entre ces banques et effectivement la nef, étant donné que j'ai été quand même déçue, moi, par le Crédit Coopératif finalement.
Alors, je voudrais à nouveau être clair. La société financière à l'époque n'aurait pas vu le jour si le Crédit Coopératif ne nous avait pas aidés. Mais derrière le mot Crédit Coopératif, il y a des hommes. D'accord ? À l'époque, le président du Crédit Coopératif ou son directeur général, je crois que c'était le directeur général, c'était M. Dutilleux. Et puis, il avait autour de lui tout un ensemble de personnes que le projet NEF, d'ailleurs, a interpellées. En ce sens où nombre de ces personnes se sont en quelque sorte souvenus, à travers ce qui venait de la nef, se sont souvenus de ce qui avait été, même à l'origine, en son temps, du Crédit Coopératif, il y a plus d'un siècle. Donc on a eu au départ une relation extrêmement riche avec ce premier cercle de personnes du Crédit Coopératif. Et si vous regardez la communication du Crédit Coopératif aujourd'hui, Vous verrez, on n'est jamais propriétaire de ses idées, hein, on est bien d'accord. Mais vous verrez quand même qu'une grande partie de la communication du Crédit Coopératif s'est inspirée très fortement de la communication de la nef. Tant mieux, quelque part, hein, tant mieux. Alors maintenant, au niveau des hommes, les choses évoluent. Il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui quittent le navire. Le grand changement, ça a été quand même la problématique de l'adossement du Crédit Coopératif au groupe BPCE, hein, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Ça, évidemment, ça a changé un peu les choses. Et c'est vrai que nous sommes passés par une situation de relations tendues, de relations difficiles. Les choses vont mieux là maintenant. Je crois qu'on a, trouvé, je pense que le Crédit Coopératif a aussi réalisé que le fait de poursuivre avec la nef, ça avait un sens pour le Crédit Coopératif lui-même. Donc je me permets de dire que les choses vont mieux. Cela étant, notre projet reste intact. Nous voulons, un jour ou l'autre, et j'espère le vivre, devenir une banque de plein exercice.
Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui le plus ? Est-ce que, j'imagine que les projets qu'on vous propose ne manquent pas ?
Pardon ?
Les projets, oui. les gens qui viennent vous voir pour des financements, j'imagine que ça ne manque pas. Est-ce qu'il vous manque des financements ? Est-ce qu'il vous manque des personnes pour gérer les dossiers ? Enfin, qu'est-ce qui freine votre développement aujourd'hui ?
Alors, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont de pouvoir financer de gros projets où ça vaut le coup de consacrer du temps. Je plaisante. C'est un peu la nef, c'est, reste quand même, même si ça a beaucoup changé en 2017, mais la nef reste quand même un peu une banque de détail en termes de crédit. Hein. Nous avons beaucoup de concours. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur ce document que j'ai là et qui reprend tous les prêts de l'année 2017, vous avez beaucoup de petits concours, 5, 10, 15, 20, 25 000. Et il nous faudrait avoir la possibilité de concours plus importants. Les choses ont sensiblement évolué en 2017, de manière, dans le bon sens, en sens que nous avons beaucoup plus de gros concours. Je crois aussi que nous avons un petit peu assoupli nos règles de prudentielles, sans que pour autant ça porte préjudice à la qualité des crédits que nous accordons. Mais ça, c'est un aspect évidemment important. Je vais vous dire une chose d'ailleurs qui m'a beaucoup frappé. La banque allemande, dont j'ai parlé tout au début, la GLS, a décidé en 2017 de demander à tous ses coopérateurs et à tous ses clients de verser 5 euros par mois sur un compte spécial destiné à permettre à la banque de continuer de s'occuper et d'avoir la même écoute, de consacrer le même temps, la même quantité de temps et la même qualité de temps aux porteurs de projets. Parce qu'avec la baisse des taux, il y avait un effet ciseau qui s'est manifesté très rapidement, et même cette banque-là, qui affiche de mémoire 5 milliards d'euros de bilan, même cette banque-là commençait à avoir des difficultés à équilibrer son compte d'exploitation en raison du fait que le temps consacré aux petits dossiers finissait par poser problème. Donc pour nous, nous n'en sommes pas là en France, nous n'avons pas décidé d'aller dans cette voie-là, mais pouvoir disposer, pouvoir attribuer des crédits de plus importants volumes, ça c'est un élément important. Et puis ce qui sera, je l'ai dit aussi, tout à fait essentiel, c'est notre capacité à augmenter régulièrement notre socle, notre base, c'est-à-dire le capital social de la société financière. Nous avons des objectifs très, très précis, ambitieux pour les années qui viennent, qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, une dizaine de millions d'euros en tout cas sur les deux ou trois exercices qui viennent. Nous devons augmenter cette base pour conserver un taux de liquidité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui soit conforme à la réglementation. Et d'ailleurs, le crédit coopératif auquel nous sommes adossés est lui-même soumis à des règles qui viennent de plus haut, c'est-à-dire de la BPCE. Et on croit savoir que la BPCE veut tendre vers un taux de liquidité qui irait vers les 15-16%, alors qu'aujourd'hui on tourne autour de 12-13%. Donc vous voyez, c'est un sujet important. Et en même temps, je dirais, très brièvement, je dirais que ce qui me frappe, moi, qui suis de nouveau à la nef, si je puis dire, depuis 3-4 ans, puisque en raison de mes obligations professionnelles, je n'avais plus pu participer activement au développement de l'institution, ce qui me frappe, c'est la vitalité du sociétariat et de l'implication du sociétariat. Ça, c'est quelque chose, je pense que les autres banques vraiment n'ont pas cela. Nous avons 40 000 sociétaires et je peux vous assurer que ce sont des gens qui réagissent au quart de tour. Nous avons une assemblée générale extraordinaire pour des raisons techniques sans intérêt qui a lieu au début du mois de mars. Eh bien, nous avons en l'espace de très peu de temps, nous avons obtenu le quorum. Vous voyez ? Donc on a un sociétariat qui est extrêmement engagé, extrêmement conscient de l'importance de la chose. Et puis, nous parvenons régulièrement à augmenter le capital. Nous étions à 37 millions, je crois, l'an dernier. Nous sommes à 39 maintenant. Vous voyez, même si ce sont des pas qui sont peut-être un peu faibles, mais nous continuons à pouvoir augmenter le capital.
Oui, pour répondre à cette question, quels sont nos besoins aujourd'hui ? Donc, Patrick l'a dit avec ses mots, je vais le dire avec les miens. En fait, ce qui m'apparaît important, c'est de soutenir le projet NEF. Alors, beaucoup de personnes se sont focalisées sur le fait que nous n'ayons pas donc de compte courant, effectivement, puisqu'on n'a pas l'agrément bancaire aujourd'hui. Par contre, ce dont on a vraiment besoin, c'est qu'effectivement, des personnes achètent des parts de capital et puissent aujourd'hui soutenir le projet. Ça, c'est important. La deuxième chose, simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de l'argent à prêter. Donc, c'est important de le dire autour de vous aussi, la NEF, donc, a besoin aussi de nouveaux porteurs de projets.
Alors, moi, depuis le début, j'entends parler d'opportunités, de risques, de forces, de faiblesses, d'opportunités de marché et de recherche. Vous cherchez d'attirer des plus gros projets. Mais du coup, quelle politique vous entreprenez pour attirer ce monde-là ? Comment vous attirez les gens chez vous ?
D'une part, en le faisant savoir, comme aujourd'hui. Mais bon, ça, il est clair que ça ne suffit pas. En fait, pour être tout à fait réaliste, enfin, pour être tout à fait complet, nous réalisons maintenant que nous avons éventuellement eu, par rapport à des projets qui se présentaient, nous avons eu parfois un jugement trop sévère par rapport à la viabilité économique des projets en question. Donc, c'est en partie, effectivement, les gros projets qui nous manquent, et ça, on essaie de le faire savoir de toutes les manières, mais je disais tout à l'heure que nous avons un peu aussi assoupli nos règles d'attribution. Le processus, un projet arrive, il est instruit par une personne, et ensuite, à un certain moment, le projet passe en comité d'attribution. Parce que c'est jamais une personne qui décide qu'on va financer telle ou telle chose. Il y a une personne qui instruit le projet, et ensuite, il y a un comité des engagements, c'est comme ça que ça s'appelle, qui décide si, oui ou non, on va financer le projet en question. Et il est apparu que les critères que nous mettions, les critères de solidité financière que nous mettions en œuvre par rapport au projet étaient peut-être un peu excessifs. Et donc nous avons un peu relâché, nous avons été décidés d'être un peu plus souples. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'en en 2017, sur l'année qui vient de s'écouler, pour la première fois, les revenus d'intérêt des crédits que nous avons accordés sont à peu près à la même hauteur que les revenus de placement. Et ça, ça demande peut-être une explication. Tout l'argent récolté par la nef ne peut pas être consacré à des crédits. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de demandes. Et nous ne sommes pas les seuls comme ça, d'ailleurs. Dans toutes les banques éthiques, les banques allemandes, c'est pareil. Ils ont le même problème que nous. Qu'est-ce qui se passe ? Nous faisons donc des placements de trésorerie et nous avions un compte d'exploitation qui dépendait, jusqu'à un passé récent, aux deux tiers des placements de trésorerie et pour un tiers des crédits que nous accordions. Eh bien, cette année, ce rapport-là a considérablement évolué. Il est vrai que la baisse des taux d'intérêt sur les placements de trésorerie y a beaucoup contribué, hein, faut être tout à fait honnête, mais indépendamment de cela, le nombre de crédits et le volume de crédits distribués en 2017 a beaucoup augmenté par rapport à 2016.
Par là même, je vous écoute et là, j'ai un exemple. Je connais un jeune couple qui s'installe pour développer une ferme biologique, etc. Et puis, ils me disent, oui, on s'est renseigné auprès de la nef pour emprunter. Et en fait, le taux était assez important et on choisit d'aller au crédit coopératif. Voilà, c'est souvent ce que j'entends. Donc, il y a aussi cette réalité.
C'est vrai. Et c'est une question de choix. La nef, quand vous allez acheter vos légumes bio chez Biocoop, ça coûte plus cher que d'acheter des légumes éventuellement même bio chez Super U ou ailleurs. Bon, c'est vrai que le coût d'un emprunt à la nef est plus onéreux en général, la différence se soit beaucoup rétrécie là, au cours des dernières années. Mais c'est vrai, c'est plus onéreux. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Le mode de fonctionnement de la nef est un mode de fonctionnement extrêmement économique, enfin extrêmement soucieux, je dirais, des deniers à disposition. Moi qui viens d'une société où on avait d'autres moyens, je peux vous assurer que à la nef, on compte les sous de manière extrêmement rigoureuse. Et pour autant, on ne parvient pas à égaler, parce qu'on n'a pas l'effet de masse que peuvent avoir les autres. Et donc, à la nef, ça coûte plus cher. Mais c'est aussi une manière de soutenir le projet nef.
Aussi, bon, moi j'ai peu d'expérience, mais simplement j'entends aussi que pour beaucoup, en fait, n'ont pas encore pris conscience, par manque d'information ou par non-intention de bien s'informer, parce que nul n'est censé ne pas connaître la loi, comme on dit. Et donc, pour eux, le crédit coopératif, c'est la nef, vous voyez ? Et ils n'ont pas encore saisi qu'il y a une différence. Alors, comment pourriez-vous... il y a une démarche à faire dans l'information. Et moi, je leur dis, il y a une différence. Enfin, je commence à comprendre la différence. À peine, mais... De l'extérieur, c'est pas si évident quand on n'est pas dans le milieu professionnel et autres.
Oui, je comprends. Ah, si vous dites à Monsieur Bancel, le président du Crédit Coopératif, que le Crédit Coopératif c'est la nef, je suis pas sûr qu'il soit très content. Non, je comprends très bien ce que vous dites, d'autant que nous avions jusqu'à un passé récent des instruments de dépôt ou de compte qui portaient le label nef Crédit Coopératif. Donc je peut parfaitement comprendre que cela puisse, entretenir une certaine confusion. Ces instruments-là, d'ailleurs, n'existent plus. Il y a été mis fin. Les comptes NEF Crédit Coopératif, les comptes à vue NEF Crédit Coopératif deviendront intégralement Crédit Coopératif là, dans les mois qui viennent. Nous travaillons avec les crédits coopératifs à la possibilité de créer de nouveaux comptes qui seront des comptes intégralement NEF, qui ne porteront plus le label NEF Crédit Coopératif, mais NEF tout court, et sur lesquels la NEF aura l'intégralité de la disposition. Parce que dans les comptes NEF Crédit Coopératif, c'est Crédit Coopératif qui reçoit l'argent et qui met à disposition de la NEF une partie de cet argent. Dans le système futur, la NEF aura prise directement sur les fonds en question.
Voilà. Ce qui permettra une clarté, parce que de l'extérieur, pour le néophyte, franchement, c'est pas si...
Oui, mais je comprends.
C'est vraiment pas facile.
Je comprends très bien.
Je crois que ça s'empathie. Ah oui. Ouais.
Je comprends très bien.
Oui, c'est vrai aussi que sur cette question, pendant des années et des années, la NEF a fonctionné en ouvrant une porte qui était celle du crédit coopératif. Donc, effectivement, les personnes, à un moment donné, ne s'y retrouvaient plus entre les deux. Et aujourd'hui... Donc, si j'ai bien compris ce que disait Patrick, d'avoir un compte courant NEF-NEF, ça veut dire aussi on va ouvrir directement la porte de la NEF. Et quand on ouvre directement la porte d'une banque, on rentre dans cette banque. Alors qu'avant, pour nous, on rentrait au crédit coopératif pour avoir un compte NEF. C'était pas terrible.
Si, est-ce qu'il y en a d'autres questions qui concernent la NEF directement ou... Non ? Voilà, donc je voulais vous dire que donc voilà. Donc on est très heureux que les protagonistes qui ont participé à la création finalement de cette institution financière aient raconté leur histoire, parce que cette histoire elle est exemplaire dans le sens où elle donne espoir et elle donne aussi envie de faire des choses pour faire évoluer la société. C'est-à-dire, ce sont tout simplement des gens qui, dans une école, se sont préoccupés de trouver de l'argent pour financer leur projet, mais qui ont été capables de s'associer, qui ont été capables, comme vous a très bien raconté Patrick, de se regrouper autour du projet d'une personne ou de quelqu'un qui a une initiative, en oubliant aussi ses propres intérêts immédiats ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est des histoires d'hommes, de femmes qui se réunissent pour faire évoluer les choses, pour trouver des solutions. Et ça, finalement, c'est à portée de main de tout le monde. C'est à portée de main de vous qui êtes aussi dans d'autres situations ou dans d'autres organismes ou qui avez envie de résoudre tel ou tel problème ou telle ou telle question. Et là, c'est vraiment un exemple vraiment fructueux, on peut dire, de gens qui se sont rassemblés pour trouver des solutions et faire bouger les lignes de notre société vers plus d'humanité et plus de fraternité. Voilà.